One, two, three, ho!
Tu savais que le vélo, c'était l'activité la plus inclusive?
Non, pas du tout.
Parce qu'en fait, tu peux dire un vélo ou une bicyclette. Oh. Et quand tu dis les cyclistes, c'est masculin et féminin.
Magnifique. Et bim, encore une raison pour faire du vélo. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo et c'est l'épisode numéro 100. On est ravis de vous retrouver, on est ravis de se retrouver, on est 5 autour de la table, ça faisait un moment qu'on n'avait pas été aussi nombreux. On va commencer dans l'ordre du désordre. Cycloenthousiaste, comment ça va?
Super, il fait beau temps, c'est le temps de faire du vélo.
Eh bah tant mieux, Arnaud, on est venu en vélo, ça roule?
Mais ouais, ça roule bien. Mon fils m'a dit qu'il fallait que je reste derrière toi pour que tu nous coupes le vent.
Oui, avec ma masse musculaire, je coupe le vent. Florian, ça roule?
Ça roule super bien, ouais, c'est l'été, ça y est.
Et Lilou?
Eh oui, avec Electrobike, de toute façon, ça roule toujours du tonnerre.
Pas d'effort. Il t'est arrivé quelque chose de sympa ces derniers jours à vélo?
Mais il m'arrive que des trucs sympas à vélo, forcément.
Et toi, tu penses que quand on fait du vélo quelque part, on garde un cœur d'enfant?
Ben oui, je sais pas si c'est que moi, vous me direz aussi ce que vous en pensez, mais franchement, est-ce que c'est parce qu'on apprend le vélo quand on est enfant? Mais moi, dès que je monte sur mon vélo, mon âme enfantine refait surface.
Il y a un peu de ça pour moi aussi, je t'avoue.
Surtout s'il y a des flaques.
Ouais.
Mais clairement, et il y a d'autres indices aussi. Je sais pas si t'as remarqué, quand t'es en vélo et que tu croises des autres cyclistes, il y a une espèce d'entente tacite, tu vois. Ouais. On est heureux d'être sur notre vélo. C'est comme les enfants, on n'a plus d'a priori l'un envers l'autre. De toute façon, on se reconnaît.
Ouais. Un peu comme les motards.
Ouais, il y a un peu de ça, un petit. Mais en même temps, quand tu croises les gars avec les maillots fluo, les lunettes bioniques, le casque, le vélo qui coûte 10 000 balles. Moi, j'ai remarqué. Non, ou c'est moi qui suis un enfoiré?
Alors, c'est vrai qu'il y a des cyclistes qui se prennent plus la tête. Moi, je te parle vraiment des cyclotouristes, cyclo-voyageurs.
Vélo-taffeurs.
Voilà, les gens comme nous, quoi. Quand t'es gamin, tu sais, tu t'en fous comment t'es habillé. T'as remarqué? Et quand tu commences à faire du vélo, tu repars sur cette pente. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous aussi. T'sais. Au début, t'es quand même inquiet de bien paraître, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, tu t'en fous, en fait. Tu vas juste mettre des habits qui sont pratiques pour faire du vélo et t'en as plus rien à carrer de ce à quoi tu ressembles.
Tu retrousses le pantalon, t'en as rien à foutre. Puis quand t'arrives, tu t'aperçois que t'as le pantalon retroussé, que t'as l'air un peu moins classe. Mais en vélo, tu t'en fous, en fait.
Complètement, exactement. Je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais moi, quand je redescends de mon vélo plutôt, après par exemple une grosse montée ou bien après avoir bien pédalé, et puis je sors ma gourde et puis je bois, mais tu vois, comme une gamine, c'est vraiment glou, comme ça. Et puis après, tu t'essuies la bouche, mais vraiment balèque, quoi.
Tu t'en fous partout, t'as le t-shirt, t'as le pantalon mouillé, mais rien à secouer.
Exactement, c'est ton âme d'enfant qui ressort. Et vous avez aussi cette expérience-là quand vous faites du vélo?
Ouais.
Oui, parce que au moins, tu pourras toujours dire à celui qui te regarde, bah écoute, moi j'ai fait un effort, toi t'en as pas fait, donc j'ai le droit.
Exactement.
J'ai le droit d'être un gosse.
Moi, j'ai toujours mon âme d'enfant, à vélo ou sans vélo, je reste un gamin, quoi. Donc.
Ouais, je suis un peu attardé, moi je dois reconnaître. T'es attardé aussi, Florian?
Attardé, oui. Bah les vêtements, c'est les vieux vêtements que j'aurais dû jeter il y a longtemps, comme disait Lilou. Et oui, je remets cela pour le vélo. Ouais, ils servent encore.
Ouais, quand je pars en vacances en vélo, justement, j'en profite pour prendre les chaussettes trouées, les caleçons qu'on détroue, les t-shirts pourris, et comme ça, je les largue avant de rentrer. Comme ça, quand je rentre, j'ai moins de bazar dans les sacoches. Je sais pas si ça fait partie de l'âme enfantine.
Moins de lessive aussi.
Oui, et moins de lessive. Voilà. Et au moins, plutôt que de les jeter n'importe où, enfin, genre, là, je les jette et il y a une utilité. Quoi. C'est ça qui est important.
Ouais. C'est le barreau de donneur. Quoi.
Florian, on a une bonne nouvelle qui nous vient du Cyclocampeur International. C'est l'organisme qui organise le festival du voyage à vélo à Paris.
C'est ça. On avait été avec Arnaud et Lilou, d'ailleurs.
Il y a quelques années, ouais.
Ouais, l'an dernier, avant le coronavirus, dans le monde d'avant. Donc, c'est Cyclocamping International qui a ouvert sa bibliothèque d'informations sur les destinations de voyage à vélo. Elle est le fruit de 40 ans d'expérience. Jusqu'à présent, elle était réservée aux adhérents. Et aujourd'hui, tous les cyclo-voyageurs peuvent y avoir accès. Vous allez sur le site de Cyclocamping International et voilà. C'est bien, là, les vacances arrivent, donc profitez-en. Autre bonne nouvelle, et là, ça nous vient du côté de la Loire. Le train Loire à vélo embarquait gratuitement son vélo entre Orléans, Nantes, Le Croisic, et bien à partir du 12 juin.
Ah, et dans les bonnes nouvelles aussi pour embarquer son vélo, il y a les grands bus. Bon, de toute façon, il n'y a que deux marques, tout le monde les connaît, Blablabus, Ouibus là, et Flixbus. Ils ont obligation maintenant de pouvoir embarquer les vélos. Alors, il y a des espèces de racks, souvent c'est à l'arrière du vélo, où on peut mettre quatre...
À l'arrière du car.
Ouais, à l'arrière du car, pardon.
Il y en a un qui suit sur cinq, c'est pas mal.
Merci. C'est vrai que t'es le seul à avoir remarqué. Oui, c'est bien ce que tu racontes. Mais tu peux mettre quatre vélos. Alors, bon, je pense qu'on peut aussi en mettre dans le coffre. Faut pas prévoir non plus de partir avec son vélo si on a moyen de faire autrement. Mais en tout cas, c'est possible au moins sur un... Je sais pas, tu peux mettre ton vélo à Milan et puis le récupérer à Paris. Et ça, c'est quand même pratique.
C'est une bonne possibilité, ouais.
Et c'est la loi européenne qui...
Plus besoin de le démonter alors.
Ouais. T'as fait un interview, Florian, récemment, là.
Oui, donc j'ai interviewé Mehdi de l'association TEPS avec Capucine et Gabriel. Et en fait, Mehdi va réaliser le rêve de Capucine et Gabriel, qui sont frères et sœurs. Et leur rêve, c'est de partir en voyage vélo à l'étranger. Et là, pour le coup, en Islande, en passant par la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Et alors, Capucine et Gabriel, comme ils vont l'expliquer, ils ont une maladie rare, qui est la maladie des os de verre. Et malgré ça, ils vont pouvoir partir à l'autre bout du monde en vélo.
Salut Mehdi, salut Capucine et Gabriel. Alors Mehdi, parle-nous de ton association.
Alors l'association s'appelle TEPS, Tout est possible avec le sourire. Et l'objectif, c'est d'organiser des jeux d'aventure à travers le sport et la découverte de villes ou de pays en France ou à l'étranger pour des enfants qui sont en situation de handicap ou malades. Et pour cette aventure qu'on va bientôt réaliser cet été en 2021, c'est avec Gabriel et Capucine.
Le but, c'était de réaliser leur rêve un peu, non? Gabriel, Capucine, c'était votre rêve de partir en voyage?
Oui, tout à fait ça. C'était notre rêve de voyageurs de France, tous les deux, de faire une aventure en commun.
Et alors là, vous allez partir où?
On part en Islande tous les deux cet été, avec toute l'équipe TEPS, en faisant un road trip, en partant de la France, en passant par plusieurs pays d'Europe, jusqu'à arriver en Islande.
D'accord. Bon. Wow. Et donc, pourquoi on vous invite? Parce que cette aventure, vous allez la vivre à vélo. C'est ça?
Oui, c'est ça. Le but, c'est pas non plus de faire que du vélo, c'est surtout de voir du pays, c'est surtout de visiter. Donc le vélo, ça va être le fil conducteur sur tout ce qui va se dérouler ensuite. Mais oui, le vélo sera présent.
Et alors, c'est un vélo un petit peu particulier. Alors, pour dire, vous avez une, on peut en parler, vous avez une pathologie, vous avez une maladie qui vous gêne dans la vie quotidienne, c'est l'ostéogenèse imparfaite ou la maladie des os de verre. Vous pouvez nous en parler un peu?
C'est une maladie qui touche les os, qui est génétique. Et qui nous rend donc plus fragile, entre guillemets.
Plus faible physiquement aussi.
Voilà, qu'un enfant normal.
Et alors, du coup, le vélo, il est adapté comment, en fait, à votre pathologie?
Le vélo, il est adapté, en tout cas pour ma part, c'est en main alliée, c'est avec les bras, tandis que Mehdi est derrière et pédale avec les jambes. Gab, c'est différent.
Il y a un tricycle avec l'électrique, parce que dans les montées, c'est pas possible pour moi de y aller dans un vélo classique.
Oui, donc Capucine, c'est un tandem, c'est un vélo tandem Pinot. Donc Mehdi sera derrière, il va pédaler. Toi aussi, tu vas l'aider un petit peu, mais ce sera, voilà, il va t'aider dans ton effort. Et puis Gabriel, donc avec le vélo électrique, tu pourras monter n'importe quelle côte et des volcans en Islande. Alors Mehdi, je me tourne vers toi. J'ai lu sur votre site internet que ces vélos qui vont vous aider à partir à l'aventure, vous allez pouvoir les prêter ensuite à des familles au retour de voyage qui voudraient aussi partir à l'aventure, faire des petits voyages en France ou à l'étranger, et pour des personnes qui ont des handicaps aussi.
C'est exactement ça. C'est de se dire que nous, sur l'aventure, bon, on est arrivé à financer ce vélo, en tout cas le dernier, le tandem, avec l'aide de beaucoup de personnes. Et c'est aussi le mettre à disposition après l'aventure pour d'autres enfants, pour d'autres personnes en fait qui souhaitent vivre des voyages à vélo. Parce que le vélo est super fédérateur en famille, entre amis, on peut aller au bord d'un lac, en montagne, et c'est pas adapté à tout le monde. En tout cas, il y a souvent des personnes qui peuvent pas en faire, ou alors qui vont être dans une position où ils sont, comment dire, ils sont pas moteurs, ils vont pas bouger les jambes, pas les bras, parce que l'adaptation ne leur permet pas. Et nous, c'est de mettre en place un système qui leur permet, oui, de pouvoir pédaler, quelle que soit la maladie, le handicap, en tout cas de se rapprocher de ça.
Et alors pour ça, vous avez reçu un financement de la Bourse des Possibles. Donc c'est l'association La Fabrique de l'Aventure qui est dans le Jura. Et alors vous allez au final rendre compte de votre projet au cours du festival Les Rendez-vous de l'Aventure. Donc rendez-vous en mars 2022.
Ouais, ça sera avec plaisir de pouvoir partager l'expérience. En plus on sera rentré, donc on aura beaucoup d'échanges et à faire sur le vélo. Et aussi, comme Gabriel le disait, sur toute l'aventure qu'on a pu réaliser au-delà du vélo. Donc ça sera des super échanges à faire. On pourra faire des feedbacks sur comment marche le vélo et on pourra donner des conseils du coup pour les futurs aventuriers ou aventurières qui voudront utiliser ce matériel. Et on a l'objectif aussi de faire des épisodes un petit peu au retour et un film documentaire qui sera présenté par la suite avec toute la préparation du projet, l'aventure en elle-même et l'après. Parce que c'est aussi super important de voir ce qu'on fait après une fois qu'on a fait une telle aventure.
D'accord, donc rendez-vous à Lons-le-Saunier en mars 2022. On prend note. Ouais. Et pour découvrir tout ça, passionnant. Je vous remercie pour ça. Et puis, je vous dis bon voyage, alors bonne route.
Merci.
Merci Gabriel et Capucine, on vous souhaite un excellent voyage. Et je passe la parole à Arnaud pour son quiz.
Merci Lilou, parce qu'aujourd'hui nous fêtons le 100e épisode.
Ouais, ouais.
Deux pauses vélo réparties en trois saisons. Je vous ai donc préparé un petit quiz sur votre podcast préféré. Question numéro 1. Pour une émission de 30 minutes, combien de temps de préparation faut-il compter? Alors, dans temps de préparation, je prends en compte la préparation des chroniques, l'enregistrement, le montage audio et vidéo, la mise en ligne, la com, et tout ça, globalement, pour tous les chroniqueurs.
Ah, si on met tout...
Tout le monde ensemble, le travail de tous les chroniqueurs ensemble pour 30 minutes d'émission. Alors, j'ai 4 possibilités. Réponse A, entre 5 et 10 heures. Réponse B, entre 10 et 15 heures. Réponse C, entre 15 et 20 heures. Ou réponse D, la réponse D.
moi, je dis la réponse C.
Ouais, moi, je suis complètement...
Oui,
ouais.
C, ouais.
Il faut 10 et 15 heures, ça faisait quelle réponse?
C'était la B.
Alors, je dis la B parce que j'aime bien me dissocier.
C'était la C. C'était bien entre 15 et 20 heures de préparation pour...
T'es nouveau, ça se sent. Hein.
On voit que je suis nouveau. Hein.
Tu vas en chier. Hein. Toutes nos heures. Et encore, il n'y a pas le montage derrière, hein, frais, je pense, hein, là-dedans.
Ouais.
Puis alors, la prise de rendez-vous facile. Avec les uns et les autres, c'est aussi.
Ouais. Question numéro 2. Combien de temps d'écoute faut-il prévoir pour écouter les 100 épisodes? Alors, pas de proposition, là, vous y allez rapidement.
Ah, c'est facile. 50 heures
300 minutes
100 fois 30.
Ouais, non,
3000
heures.
Minutes.
Mais non, il faut diviser par... t'as 100 épisodes qui font une demi-heure, donc c'est 50 heures.
Bah ouais, moi, je dis en minutes, c'est plus simple. de calculer. Ouais.
50 heures.
C'est, voilà, 50 heures. Très bien.
3000 minutes, c'était juste aussi.
3000 minutes, ça me semble pas mal aussi. Ouais.
Soit un peu plus de deux jours.
Exactement. Quel autre nom a failli porter l'émission? Alors, Eric, tu répondras à la fin.
Je dis rien.
Réponse A, l'instant vélo. Réponse B, le moment du vélo. Réponse C, la pause à vélo. Ou réponse D, c'est le moment de l'instant de la pause à vélo.
Moi, je dirais réponse A.
L'instant vélo.
Je trouve que ça sonne bien.
Ouais. Lilou, Florian.
Je connais la réponse.
Tu connais la réponse aussi? Ok, alors
moi, je vais dire aussi... non, allez, je vais dire la réponse D.
Eh bien, c'était la réponse A, l'instant vélo. On était sur exactement. Le balcon, chez moi, en train de discuter de ça, d'avoir l'idée, et puis on réfléchissait à ça.
On a brainstormé.
Ouais, mais pause vélo, c'est bien, je suis fier.
Ouais, moi aussi. Question numéro 4. Quelle était à l'origine la durée prévue pour un épisode? 15 minutes, 45 minutes, 60 minutes ou environ?
Ouais, à peu près par là. Ouais.
Moi, j'aurais dit 60 minutes.
Environ.
Environ.
Ouais, connaissant l'ambition d'Eric, je dirais 45 minutes.
On était parti sur du 15 minutes.
Ouais, hein. Voilà, j'ai pas tant d'ambition que ça.
Mais les deux premiers épisodes font 12-15 minutes, non?
C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte après le premier que c'était vraiment très court, 15 minutes.
On avait le temps de rien dire.
Ouais, c'est ça. Question numéro 5. Après avoir écouté nos épisodes, combien d'auditeurs ont franchi le cap de supprimer les mots 70, 80 et 90 de leur vocabulaire pour les remplacer par 70, 80 et 90? Réponse A, 70. Réponse B, 80. Ou réponse C, 90?
Ouais, j'aurais dit 75, mais je sais pas.
70. Je suis intégriste.
J'aurais eu envie de dire 100%, mais... Ouais. Alors, 90.
Alors, effectivement, à peu près 70, 80 ou 90 millions d'auditeurs ont trouvé 90. Plus logique notre façon de compter.
70 et 90, comme on dit chez nous en Bretagne.
Et enfin, la dernière question, la question numéro 6. Parmi la liste ci-dessous, quel invité n'est jamais venu dans notre émission? 11 propositions. Un prix Nobel, un champion de BMX, un entrepreneur à vélo, un libraire à vélo, un geek, un vélotaffeur de l'extrême, un écrivain, un réalisateur, un médecin, un graffeur ou une famille à vélo.
Putain, on a...
Un graffeur.
Un geek.
Non, on a eu le geek.
Hein. Même moi, je sais pas.
Ouais. Ouais, j'aurais dit le graffeur aussi, mais sans grande certitude.
Attends, tu peux redire au ralenti? Ralenti radio.
Un prix Nobel. Champion de BMX.
Active.
Un entrepreneur à vélo, un libraire à vélo, un geek, un vélotaffeur de l'extrême, un écrivain, un réalisateur, un médecin, un graffeur ou une famille à vélo.
Non, mais on a tous eu, on les a
oui
tous eu.
Oui en fait.
Ah, le piège.
Alors, je le fais vite, le prix Nobel, épisode 17, le champion de BMX, épisode 10, l'entrepreneur à vélo, 97 et plein d'autres aussi.
97.
Le libraire à vélo, c'était le 60, le geek, l'épisode 71, 71, le vélotaffeur de l'extrême, le 77, un écrivain, le 56 et plusieurs fois avec Claude Martaler qui est venu un certain nombre de fois, un réalisateur, c'était pour la grande boucle, c'est l'épisode 37, un médecin pour un épisode sur la santé dans l'épisode 25, un graffeur dans l'épisode 11 et une famille à vélo dans l'épisode 91, 91.
Ouais, c'est ça. On voilà. Se rend pas compte, mais c'est un sacré boulot. Hein. Je me rendais pas compte qu'on a fait ça. Bah, tu parlais de Claude Martaler. Eh bien, on va le retrouver parce qu'il vient de sortir un nouveau livre où il parle de lui et de sa vie. Et comme sa vie tourne autour du vélo, eh bien, on parle de vélo. Claude Martaler pour la sortie de son livre « L'appel du volcan ». « Salut Claude Martalère, comment ça va?
Ça va plutôt bien.
Eh bah tant mieux. Alors Claude Martalère, on a l'impression que tu n'as que ça à faire, tu écris des bouquins tout le temps. Je crois que la dernière fois que tu es passé dans l'émission physiquement, c'était déjà pour la sortie d'un livre, c'était il y a un an, si je dis pas de bêtises.
Tu veux dire que vous en avez déjà marre que je revienne?
Non, ça va, ça va. Et là donc le nouveau bouquin, L'Appel du Volcan, ça parle de quoi?
Alors L'Appel du Volcan, c'est peut-être c'est le 11e ouvrage que je publie, j'ai la chance d'écrire. Celui-là il est plus personnel, il est plus intime, donc je parle non seulement d'une ascension du plus haut volcan du monde, c'est l'Ojos de Salado à la frontière entre le Chili et l'Argentine, mais également j'en profite dans la descente d'entrer dans des versants plus brûlants, intimes de ma vie. Notamment j'évoque dans un chapitre des séismes familiaux. Je crois que c'était une bonne période pour moi pour le sortir, puisque je vais sur mes 61 en juillet déjà.
Oh non de Dieu.
Voilà, on se refait pas, hein. Et donc du coup ma mère est décédée en novembre l'année passée, et alors mes parents sont derrière moi, mes ancêtres, et puis aussi j'ai perdu mon frère et mon demi-frère, donc d'une fratrie de trois, et c'était le bon moment peut-être pour rendre hommage ou avoir un regard un peu rétrospectif par rapport à mes origines et les ressorts qui m'ont poussé à réaliser tous ces périples.
Et en plus tu me disais aussi, tu n'as pas d'enfant, donc pas d'ascendant, pas de descendant, pas de voisin, voilà. Pas d'à côté.
Si je me casse, la banque familiale n'existe plus.
Plus de Martalère, voilà. Comment on va faire?
Il y aura d'autres branches, mais il y en a d'autres. J'ai des cousines, des petites nièces, voilà, petits neveux.
Donc tu as eu besoin d'écrire ce livre comme un peu une pierre pour marquer ton passage, c'est un peu ça pour toi?
Ah, c'était aussi une possibilité d'évoluer dans l'écriture, c'est-à-dire de peut-être aussi renouveler un peu le genre du récit de voyage pur et simple, chronologique, dont on a l'habitude de lire, d'y introduire peut-être des feedbacks temporels, émotionnels aussi, et au lieu peut-être de raconter l'ascension pure et dure, où ça a plutôt été un prétexte pour toucher le magma, et je fais beaucoup d'analogies entre le magma géographique, naturel, et je dis que le centre c'est pas l'homme, mais c'est le magma de la terre, et le centre de l'homme c'est sans doute son bas-ventre plutôt que sa cervelle, s'il en a une. On peut en douter parfois. et donc voilà, je dis qu'on a tous eu, enfin en tout cas pour ma part, j'ai une nature un peu volcanique, ça bouillonne, c'est une possibilité un peu comme à la surface du globe qui a donné naissance à des volcans, par l'écriture de sortir un peu des pistes comme ça qui sont un peu enfouies en soi.
Alors le vélo et surtout le cyclo-voyage, c'est au centre de ta vie. Donc évidemment, le bouquin parle de vélo, mais...
Encore une fois.
Ouais, mais pas autant que les autres ou d'une manière différente.
Oui, alors tu l'as bien saisi. Effectivement, là, c'est plus un prétexte ou c'est plus une affirmation. Le sommet en lui-même, c'était pas forcément... Bien sûr, c'était un moment très, très beau, mais c'était pas un but en soi, ou si je n'avais pas réussi à atteindre le sommet, ça n'aurait pas été la catastrophe. C'est toute la démarche pour arriver au pied de la montagne. C'était déjà 2 mois de vélo avec des hauts cols à plus de 4000 dans la promenade d'Atacama, qui est la partie la plus élevée en fait des Andes. Donc il y a beaucoup de volcans à plus de 6000 mètres et c'est un paysage époustouflant, minéral, où il n'y a pas d'eau potable, que des lagunes de sel. C'est très très sauvage. Donc moi j'aime bien, c'est un univers très dépouillé.
Alors allonge-toi sur le divan du psychologue. Le vélo, c'est qui pour toi? C'est quoi pour toi? C'est au centre de ta vie, mais c'est quoi? C'est une branche à laquelle tu te rattrapes? C'est quoi le vélo?
Alors, le vélo, c'est une histoire d'amour. Je crois que c'est... Ouais, voilà, je suis tombé amoureux depuis toujours. Et je me pose la question de qu'est-ce que je serais devenu si le vélo n'avait pas existé. Bon, la légende veut que je suis sorti du ventre de ma mère sur une bicyclette.
Ah ouais?
Mais il n'y a pas de témoin, donc voilà, c'est ce qui se raconte. Mais j'aime bien les légendes et pourquoi pas.
Alors L'Appel du Volcan, c'est un moyen de rencontrer d'un peu plus près Claude Martalère, c'est aux éditions de la Salamandre. Et en parallèle du bouquin, tu es en train de travailler sur un lieu où tu vas accueillir des cyclistes dans le sud de la France, Claude, c'est ça?
Voilà, donc c'est vrai qu'on a un grand faible pour les cyclistes, les grimpeurs, les marcheurs, mais on accueille tout le monde et on a cette chance d'avoir pu acheter une maison il n'y a pas longtemps au Luberon, et on aimerait la transformer en chambre d'hôte, dans camping à un prix libre pour les cyclistes dans une partie du jardin, faire de la permaculture, une bibliothèque spécialisée sur le vélo. Donc pour nous, c'est important de mettre l'accent sur l'accueil. Nous qui avons été accueillis aux quatre coins du monde d'une façon très chaleureuse, on aimerait un petit peu à notre tour voir les gens venir nous visiter. C'est pas une croix définitive sur le voyage, mais c'est un ancrage quand même important.
Et puis tu rends ce que tu as reçu, quoi.
On essaye le mieux possible.
Merci Claude, à plus.
Merci à toi Eric.
Ben, merci Claude pour cette descente du volcan. Puis maintenant, je cède la parole à Cyclothousiaste pour qui va nous parler de...
Pénurie dans la petite reine. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, trouver sa monture devient difficile dans cette année 2021. Alors, je me réfère à un article du journal Le Temps qui est paru le 27 mai, qui commençait par citer l'exemple d'un client, d'un vélociste, c'est comme ça que vous les appelez en France, ouais, qui avait commandé son VTT en janvier et qui ne l'avait encore pas reçu. Et sa date d'arrivée était pour juillet. Wow. Voilà, l'article disait que même certains modèles standards ne seront pas livrables avant 2023. Le vélociste qui était interviewé donc de l'Arc Lémanique lui disait typiquement qu'il avait passé ses commandes pour l'année 2021 en août 2020, ce qui est normalement assez tôt par rapport au cycle habituel, et que au moment de l'article, il n'avait au mois de février, là où il est censé tout recevoir, il avait reçu que un tiers de ses commandes. Et on parle d'une pénurie qui pourrait s'étendre jusqu'à 2023.
Oula.
Alors, maintenant, parlons un petit peu des statistiques. Pour l'année 2020, année Covid, à votre avis, pour le marché suisse, quelle était l'augmentation des ventes? Allez, Eric, je te pose la question, en pourcent.
Je crois que c'est 35% d'augmentation de ventes.
Très bien. Les autres?
Moi, je serais parti plutôt dans un chiffre à trois chiffres. Un nombre à trois chiffres.
Ah ouais, 400%. En pourcentage.
J'aurais dit 40-50%, mais...
Bon, je vous donne la réponse. C'est 40. Donc, Eric, t'étais pas mal. Maintenant, parlons de la France, parce qu'on a des auditeurs français. À votre avis, c'était combien? C'était plus, c'était moins?
Ouais, je pense que ça serait un peu moins. Allez, je dirais 30.
Mais t'es trop fort, toi.
Hein.
C'était 25%. La France, ouais, et l'Allemagne, 25%. Et les États-Unis, visiblement, personne ne faisait du vélo, c'était plus 65%. Et puis après, dernier petit point statistique, à votre avis, sur le nombre de vélos vendus, combien étaient électriques?
Oh, la moitié,
la majorité.
Ouais, bah, c'est 40%. C'est vrai que ça a vraiment augmenté. Il me semble que par le passé, on parlait de 25%. Maintenant, c'est 40%. Voilà, maintenant, pourquoi est-ce que ça bloque pour acheter un nouveau vélo? Alors, est-ce que c'est le Covid qui est en question? Est-ce que c'est le Covid et la logistique, à votre avis?
J'ai entendu parler d'une pénurie de matières premières en provenance d'Asie du Sud-Est.
Alors, ouais, l'article n'allait pas à ce niveau-là de détails. Finalement, c'est de l'offre et la demande. Et ce qui bloque, c'est l'offre, à savoir que la plupart des cadres sont produits à Taïwan. Je n'ai pas les pourcentages, mais c'est la large majorité. Et finalement, les producteurs à Taïwan sont des sociétés en main familiale. Ce n'est pas des petites famille qui monte les cadres, mais c'est une approche assez traditionnelle et ils n'ont pas jugé nécessaire de faire des investissements pour adapter la production, ce qui fait que voilà, ils restent avec le même appareil de production et ils produisent pas beaucoup plus que par le passé. Donc on se retrouve à tous devoir attendre notre chère monture désirée.
Donc ça veut dire que quand on a un vélo dans une cave qui sert à rien, le prix a augmenté, quoi.
Alors si tu veux vendre un vélo d'occasion, c'est le bon moment. Et d'ailleurs moi j'en ai un, c'est le moment de m'y mettre. Donc en cette année 2021, Shimano typiquement annonçait que pour le premier trimestre, ils étaient déjà à plus 64% par rapport à 2020, qui était déjà une bonne année. Et puis ce qui se passe aussi avec les surcoûts des vélos, parce que la demande fait que les prix montent, il y a aussi le prix du fret des conteneurs qui augmentent. Pour vous dire, un grand conteneur à l'époque qui venait de Taïwan en Europe coûtait 4 000 $ et maintenant c'est x4, c'est 16 000 $.
Boum !
Donc voilà.
Achetez local, les copains.
Après, achetez local.
Si un bateau qui est juste de travers dans le détroit de Gibraltar, c'est fini, quoi.
Alors ça tend un peu le marché, mais finalement sur la durée, c'est pas ça qui a un effet. Mais en effet, ça a fait des petits pics de problèmes. Donc chérissez vos montures, prenez-en soin. Et à propos de l'entretien, je fais toujours ce parallèle avec les dents. Prenez soin de votre vélo régulièrement pour éviter des frais par la suite. Voilà.
C'est le bon moment peut-être pour lancer tous ceux qui ont toujours eu envie de recycler des vieux vélos, dire c'est le bon moment, lancez-vous.
Oui, puis il y a des ateliers vélos qui fleurissent maintenant. Bah, avec Arnaud, maintenant, ça tout fait deux mois là, qu'on fait ça. Et en fait, c'est pas compliqué de se lancer dans la réparation du vélo.
Si on prend quelques conseils auprès d'un spécialiste qui nous forme un petit peu, comme c'est le cas pour nous à Morges, en fait, c'est très simple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes, très simplement. Et on peut être très vite autonome, en fait. C'est vraiment, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut essayer, il faut se faire accompagner au début. Puis, alors, ce qui est bien, c'est que nous, dans le cadre de cet atelier, c'est qu'on ne touche pas à nos vélos, on touche le vélo des autres. Donc, si on fait quelque chose de faux, c'est un peu moins embêtant. Mais au moins, on se fait la main pour que le jour où on aura besoin de faire quelque chose sur son vélo à soi, on sera tranquille, on saura faire.
Mais c'est vrai que 90% des réparations, on peut les faire soi-même. Et moi, vraiment, j'ai deux mains gauches. Enfin, je suis gaucher, donc ça m'arrange aussi. Mais vraiment, je ne suis pas très doué en bricolage. Et je vais chez le réparateur, honnêtement, mais une fois, même pas tous les 5 ans. Quoi, alors que je prends mon vélo quasiment au quotidien. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer 2-3 choses. Quoi. Ouais.
Et même pour les filles, hein, c'est vraiment... On croit que c'est compliqué, mais en fait, c'est pas du tout comme une bagnole où tu ouvres et puis tu sais pas trop ce que tu vois. Là, tout est visible. C'est une mécanique assez simple. Donc, franchement, lancez-vous.
Ouais. Ouais, c'est plus compliqué après si c'est un vélo à assistance électrique. Il faudra juste faire attention de ce côté-là. Mais je veux dire, le réglage de base, les pneus, changer une chambre à air, tout est
pareil.
Ouais. Et puis, merci YouTube, hein, parce que ça, c'est une source d'informations pour savoir comment faire. Le nombre de fois où j'ai crevé mes pneus parce que j'utilisais le démonte-pneu pour remettre le pneu, ben, j'ai compris qu'il fallait pas le faire.
Ah oui, t'avais la chambre à air au-dessus du pneu, ouais, c'est un peu, ouais, c'était tendu. Ben, il y a pas longtemps, j'ai découvert un blog où il y a pas mal de choses qui sont écrites, pas que sur le vélo d'ailleurs, mais c'est bien écrit, c'est rigolo. Le blog s'appelle Gronique et c'est une lecture de Quentin.
Les cyclistes sont-ils des cons? Acte d'accusation. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui pédale. Victor Hugo, in l'art d'être grand-père. Con. Désigne une personne stupide, naïve ou désagréable, de même que ses dérivés, connard ou connasse. Armé de cette citation du grand poète français et de cette rigoureuse définition, il est aisé de répondre à la question posée dans le titre. La stupidité du cycliste se démontre aisément, par ce qu'il fait bien sûr, mais surtout par ce qu'il ne fait pas, par tout ce à quoi il renonce, car ce faisant, il se détourne des plaisirs universellement appréciés et recherchés, ce qui est très con, chacun en conviendra. On en donnera ici quelques exemples. Le cycliste insulte encore trop peu les autres usagers de la route. Or, le maniement éclairé de l'injure procure, chacun le sait, d'intenses satisfactions. Notons toutefois que les cyclistes des deux sexes, dans la période récente, ont sensiblement progressé dans le domaine de l'outrage et de l'insulte, tout en demeurant nettement en retrait de l'automobiliste. D'autre part, autant il est aisé à l'automobiliste de faire une queue de poisson au cycliste, autant on sent bien que la réciproque ne va pas sans quelques périls. Là encore, pourquoi se priver sans raison d'un plaisir simple et honnête? Bon. Il est encore trop rare qu'un cycliste mette la musique à fond, tout en envoyant des SMS. Sans doute le pourrait-il, mais il le fait peu, même si on note quelques progrès récents, démontrant ainsi la médiocrité de sa réflexion. Notons encore. Dans la pratique courante du vélo, on ne voit guère d'équivalent au fait de coller le véhicule qui vous précède tout en lançant de furieux appels de phare et de véhéments coups de klaxon. Il semble qu'il y a une réelle impossibilité technique que nous déplorons. Or, une étude australienne nous apprend que la majorité des cyclistes assument cette impossibilité sans déplaisir, ce qui confirme amplement la faiblesse de l'intelligence cycliste. Un dernier point, les cyclistes vont partout, répétant qu'ils ne connaissent pas les bouchons et en tirent une sotte satisfaction. Sotte, en effet, car l'embouteillage n'est-il pas l'école de la patience, et donc de la sagesse, du discernement et de la raison, de l'intelligence et de l'entendement? On pourrait longuement énumérer toutes les félicités dont se privent ainsi délibérément les cyclistes. Convenons-en, ce n'est pas très brillant. Mais nous verrons dans un prochain article que tout n'est pas perdu, et que le cycliste n'est pas seulement l'espèce de brute sans âme dont, tristement et sombrement, nous venons d'esquisser le douloureux portrait.
Et ben voilà les copains, ce 100e épisode est terminé, numéro 100, et on va en faire encore beaucoup d'autres parce qu'on a la niaque. La semaine prochaine, ça sera un crossover entre Pause Vélo et les Sockettes en titane. On va se quitter en musique avec Ronan Le Lay, c'est du Hang Pan la musique. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo.